Libres échanges.
Animé par Olivier Lostis
et Gabriel Seban.
Libres échanges au-delà des frontières de chacun.
Pour interroger l'évolution de notre société, des points de vue, des interrogations pour un vivre ensemble autrement.
S'interroger sur une fin programmée. Dans un précédent volet, nous nous sommes placés au carrefour du droit, des volontés de chacun et de la médecine pour explorer cette question. Mais qu'en est-il sur le plan de la croyance pour un catholique? Au-delà de cette question, quel sens donner à la fin de vie? C'est le thème de cette émission numéro 11, Soigir sa fin de vie en tant que catholique.
Alors avec aujourd'hui une émission un petit peu exceptionnelle puisque c'est une émission que nous allons mener avec Didier Gougis, seul invité, diacre et responsable de la formation continue du diocèse, qui est une émission qui va essayer de répondre à des questions d'auditeurs. Donc c'est très intéressant, je profite juste pour préciser que pour toutes les émissions, les remarques, les questions des auditeurs seront très bienvenues, puis qu'on pourra peut-être parfois prolonger une réflexion comme celle-ci, celle que nous avons déjà menée lors de la dernière émission de Libres Échanges, pour la compléter, parce que, en effet, nous voulions répondre à la question d'une auditrice qui nous faisait remarquer à juste titre que la position de l'Église n'avait pas du tout été traitée dans notre première émission, ce qui est bien évidemment un point très important qui concerne énormément de nos auditeurs.
Bonjour Didier.
Bonjour.
Quelle est la position de l'Église sur la question de la fin de vie?
Alors, la position de l'Église est très claire, hein, c'est-à-dire, c'est la position par rapport à la vie elle-même, hein, je crois. Le respect de la personne humaine et de sa dignité, c'est un principe fondamental dans la position de l'Église, pas simplement sur la fin de vie, hein, mais sur la question de la personne humaine elle-même, du début à la fin. Alors, comment se fonde la position de l'Église? Là, on va plus spécialement parler de la fin de vie. Vous savez que l'Église catholique, comme toutes les églises chrétiennes, se fonde bien entendu sur les Écritures, la Bible. Et le premier texte sur lequel on s'appuie pour penser l'anthropologie chrétienne, la manière de penser l'homme dans le monde et dans son rapport avec les autres et avec Dieu, c'est la Genèse, le livre de la Genèse, donc le premier livre qu'on trouve dans la Bible et qui raconte, de manière symbolique évidemment, qui raconte la création, notamment le début de la Genèse en tout cas. Et donc, dans le livre de la Genèse, on nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Homme et femme sont créés à l'image de Dieu, et c'est homme et femme qui sont image de Dieu. C'est dans ce premier fondement que s'enracine la foi dans la dignité de l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'est pas laissé à lui-même, l'homme n'est pas tombé du ciel, il a été créé par Dieu. Donc, à son image, ça veut dire qu'il y a dans l'homme un principe d'éternité, un principe de divin, des étincelles de divin, on pourrait dire, hein, qui sont liées à son origine. Alors, à l'origine du monde, mais bien entendu, à l'origine de chaque personne humaine. Voilà. On pourrait dire que le miracle de la vie nous rattache directement, dans notre foi chrétienne,
à cet acte de création de Dieu. Alors, il y a un deuxième élément qui est spécifique des chrétiens, parce que cette première partie, on la partage avec nos frères juifs. Hein. On est fondé sur l'Écriture, le Premier Testament. Ce qui est spécifique aux chrétiens, c'est la référence au Christ, à Jésus-Christ, qui, d'une part, dans notre foi, est un élément essentiel, c'est-à-dire que nous croyons que le Jésus est une personne divine qui s'est incarnée dans le monde, donc qui est devenu homme, mais c'est Dieu fait homme. Et donc, Dieu a partagé la condition humaine, ce qui donne une dignité extraordinaire à cette condition humaine. Et puis, dans ces deux références, on y lit un amour infini de Dieu, puisque Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, est allé jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ceux qu'on aime, a-t-il dit. Et il est mort sur la croix pour témoigner de cet amour, justement. Il a donné sa vie par amour. Donc cet amour pour chacune des personnes humaines, cet amour de Dieu infini, est aussi là un point fondamental dans la dignité de l'homme. Donc l'homme, les personnes humaines ont une dignité inaliénable. Cette dignité, elle leur appartient en propre, c'est-à-dire de par leur essence même, par le fait même d'être humain. Alors, cette dignité, ensuite, ce respect de la dignité, bien, nous l'appliquons dans différents domaines, et notamment dans celui de la fin de vie. Et là, c'est sûr que le mot dignité, on le partage avec beaucoup de personnes, hein, mais vous voyez bien que le fondement de cette dignité, là, il est propre, et que cette dignité ne nous appartient pas. Voilà, et on ne peut pas la perdre.
Je crois effectivement que c'est là que ça se joue. C'est que parce que la souffrance génère chez ceux qui la reçoivent possiblement une perte d'impression de dignité. Et ce que vous mettez derrière le terme dignité est précisément une délégation qui est faite dans le sens que vous avez indiqué du divin sur l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme a une existence qui lui échappe un petit peu.
Tout à fait, tout à fait. L'homme n'est pas maître ni de son début, ni de sa fin. De son début, là, tout le monde le reconnaît, puisqu'on n'est pas maître de sa naissance. Hein. Mais plus profondément, n'est pas maître de son existence dans le monde, puisque nous faisons référence à quelqu'un, Dieu, qui est le Créateur, qui nous crée, non pas pour que nous soyons dans le malheur, mais qui nous crée pour le bonheur, pour nous donner sa vie et pour que nous soyons orientés pour partager sa vie propre. C'est ça le destin de l'homme, c'est de partager la vie de Dieu. C'est là notre avenir, c'est là notre perspective.
Pour rester un moment sur la question de la souffrance, en effet, le Christ, sur la croix, a souffert. Oui. C'est-à-dire que la fin de sa vie terrestre, en tout cas, est une fin de souffrance. Donc, c'est pour ça qu'on parle du sacrifice, etc. aussi. Et à cette souffrance, il donne un sens, celui de la rédemption, notamment. Lors de notre précédente émission, nous avons aussi posé cette question à l'un de nos intervenants. Mais quel est le sens de la souffrance au moment de la fin de vie? Sa réponse était très simple, c'est « il n'y a pas de sens à la souffrance ». Je suppose que vous ne pouvez pas accepter cette manière de dire. Nécessairement, la souffrance peut avoir un sens.
Alors, la souffrance n'a pas de sens en tant que telle. Ça, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Elle n'a pas de sens en tant que telle. C'est même le sommet du non-sens pour les personnes qui sont en souffrance. Mais on peut lui donner un sens. Il ne vient pas de soi, le sens ne vient pas de soi. De fait, le Christ, alors on a interprété de manière, à mon avis, erronée à pas mal de moments, le sens de la souffrance rédemptrice. Hein. Ce n'est pas la souffrance qui est rédemptrice. C'est l'amour dont la souffrance est la preuve qui est rédempteur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est ça le mystère de la croix. C'est pas le fait de souffrir qui sauve les hommes. C'est le fait que cette souffrance nous montre jusqu'où Dieu nous aime. Et c'est cet amour qui est salvateur. Alors, pour la personne humaine, on peut faire une analogie, c'est-à-dire donner du sens à sa souffrance, ça veut dire cette souffrance, je ne la vis pas seul. Le Christ la vit avec moi. Le Christ a donné sa vie pour moi, pour chacun d'entre nous, et il partage ma souffrance, il m'aide à porter ma souffrance. Il est avec moi dans le cœur de la souffrance. Où est Dieu, souvent, on se dit, où est Dieu, d'ailleurs, le psaume le dit, où est-il ton Dieu? Mais mon Dieu, il n'est pas dans les nuages, il est à proximité de l'homme, à côté de l'homme, il lui tient la main, il porte avec lui la souffrance. C'est dans ce sens que la foi peut aider à donner un sens à sa souffrance. Mais il ne s'agit pas de, bien entendu, l'Église et tous, nous sommes contre la souffrance, absolument contre la souffrance. Et il s'agit de prendre tous les moyens pour la soulager, dans la mesure où ils sont cohérents avec notre foi.
Alors la deuxième face de la vie, c'est effectivement la mort. Et la mort, c'est une représentation. Quelle est la manière, selon vous, d'approcher cette représentation de façon la plus sereine possible, si j'ose dire?
La plus sereine possible, chacun le vit comme il peut. De toute façon, la mort, c'est une inconnue. Même si on est très croyant, on a une grande foi, on sait par la foi, on sait parce que nous dit l'Église, nous dit toute l'histoire, hein, que la mort est un passage, que la mort est un passage vers la vraie vie, en fait, hein, comme une deuxième naissance. Mais ceci dit, lorsqu'on y est confronté, c'est l'angoisse, forcément, c'est l'angoisse, puisque c'est un saut dans l'inconnu. Et cette angoisse, elle est parfaitement normale, moi-même, je ne sais pas comment je serai le jour où je quitterai cette terre. Ça se trouve, je serai très angoissé, même si j'ai la foi dans le Christ et je sais qu'il m'appelle à une vie après la vie, une vie qui sera celle même de Dieu, puisqu'il nous invite à partager sa vie, cela dit, au moment de faire le passage.
Donc vous différenciez, en quelque sorte, à travers ces mots, l'angoisse de la souffrance. Vous en faites une distinction.
Oui, parce que l'angoisse de la mort ne vient pas forcément de la souffrance. Hein. On peut très bien entrer dans la mort tranquillement, sans souffrance, mais c'est pas pour ça qu'on peut. On peut aussi bien avoir une angoisse qui n'est pas forcément liée à la souffrance. La souffrance peut sans doute, oui, renforcer cette angoisse, bien sûr. Can't change the one you are, can't change the one you love. I'll tell you what it takes under the stars. Have you seen the other me at times? Walking on an ever-losing line.
as time goes by.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel et vous écoutez l'émission Libres Échanges avec Didier Gougis sur choisir sa fin de vie en tant que catholique.
Il y a une autre question à propos toujours de dignité. Donc, Gabriel le disait tout à l'heure, ce sentiment éventuellement de perte de dignité dans certains cas. On peut penser par exemple à la maladie d'Alzheimer qui touche beaucoup de gens aujourd'hui et qui... pour les proches notamment, finalement pour la personne on n'en sait pas grand chose, mais pour les proches en tout cas, est aussi l'occasion d'une grande souffrance. Donc, à tel point d'ailleurs que dans les phases terminales, souvent les proches aimeraient être libérés de cette situation, qui est très culpabilisante par ailleurs, parce que souhaiter au fond la mort d'un proche qu'on aime, c'est une situation extrêmement difficile, douloureuse aussi. Pas forcément angoissante, mais sur le versant de la culpabilité. Comment est-ce que ces choses-là peuvent être vues du point de vue de la religion, puisque c'est un sujet très difficile?
Alors, en se rattachant sur ce que je disais au début, la personne ne perd pas sa dignité. En aucun cas, puisque sa dignité est inaliénable, elle est liée au fait qu'elle est créature de Dieu et qu'elle est aimée de Dieu, quelle que soit sa situation. Personne handicapée, personne profondément handicapée, personne en situation de vie qu'on ne peut pas percevoir, etc. Cette dignité, elle est toujours là. Par contre, effectivement, autour d'elle, ou même en elle-même, elle peut avoir l'impression de ne plus avoir cette dignité parce qu'elle est dépendante, parce que c'est très dur, parce que... Enfin, et puis quand on voit un proche... qui diminue, qui perd ses facultés, qui est entièrement dépendant, facultés physiques, psychiques, psychologiques, etc. C'est très dur, et de fait, on peut avoir cette impression de perte de dignité. Mais je dis avec l'Église, c'est une perte de dignité externe. Mais fondamentalement, ontologiquement, on pourrait dire, dans son être même, non, cette dignité est toujours là, dans son lien à son Créateur. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça peut aider quand même à vivre cette perte de dignité en disant non, non. En se disant à soi-même, la dignité est toujours là. On ne peut pas parler de personnes qui vivent comme un légume. Non, c'est pas possible. On ne peut pas employer ces mots-là. Cette personne, c'est une personne humaine jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, même au-delà du bout, puisque nous croyons que la mort n'est pas la fin. Voilà. Alors après, bien entendu, il faut le vivre au quotidien, cette situation très difficile. Et c'est là... que l'accompagnement est essentiel, c'est-à-dire que ce qui est tout à fait destructeur, c'est la solitude de la personne, la solitude de l'aidant, la solitude de la famille autour du cas d'une personne en souffrance qui se dirige vers la fin de vie, etc. Donc c'est cette solitude qui est absolument à condamner, contre laquelle il faut lutter. Et là, on est quelquefois devant des grandes difficultés parce que ça veut dire mettre en œuvre des moyens. Et on préfère peut-être mettre les moyens plus léger à abréger une vie qu'à aller vers l'accompagnement qui est lourd.
Mais qu'est-ce qui, selon vous, peut pousser certains êtres à envisager de mettre fin à leur existence terrestre ?
Donc il y a beaucoup de raisons. J'en ai évoqué quelques-unes, mais la première, on en a parlé très rapidement, c'est la souffrance. Donc la souffrance, la grande souffrance, la souffrance profonde, c'est insupportable. Hein. Donc on a des moyens de lutter. La loi Claeys-Leonetti nouvelle version 2 a donné d'autres moyens, même pour aller plus loin dans la lutte contre la souffrance ou la douleur. Parce que la souffrance, elle a deux dimensions, hein, la souffrance physique et la souffrance psychique. Alors ça, c'est une première raison. La deuxième, j'en ai parlé tout de suite, c'est la solitude. Le fait de vivre seul cette souffrance ou cette douleur l'accentue. D'ailleurs, j'ai lu récemment un petit texte qui disait qu'il y avait même des preuves médicales du fait que si on peut la partager, la souffrance, elle est beaucoup moins intense. Il y a chimiquement, ça s'explique. Bon, enfin, je n'aurais pas à vous dire parce que je ne suis pas un médecin, mais j'ai lu ça récemment. La détresse générée par cette solitude et cette souffrance. Hein, bon. Et puis, il y a aussi un autre volet qui est le fait, je dirais d'abord la dépendance. Hein, le fait d'être de plus en plus dépendant avec l'âge ou avec la maladie, hein, le fait de ne plus être autonome et de perdre peu à peu divers moyens d'autonomie. Hein, voilà. Alors ça, c'est certainement très difficile à vivre, et donc qui amène à une dépendance vis-à-vis des proches ou des moins proches, hein, si ce sont des professionnels qui prennent en charge. Cette dépendance, certainement très difficile à vivre aussi, si on ne s'y est pas préparé. Moi, j'ai 61 ans, je suis plus près de ma mort que de ma naissance. J'essaye de me préparer déjà à ça, parce qu'il faut s'y préparer. Hein. C'est pas évident de l'accepter. Et puis, cette dépendance et cette peur de peser sur les proches et sur la société aussi, je crois. Voilà, je ne suis plus utile à rien, je ne peux plus rien faire, je pèse sur mes proches, je pèse sur la société. Bon, il faut mettre fin à ça.
Alors, on voit qu'il y a un clivage qui commence à se dessiner entre, effectivement, une perception, je dirais, de croyance et une vie enracinée dans le réel de la société. Comment établissez-vous le lien entre le divin et le concret habituel, c'est-à-dire être capable, c'est de la sublimation.
Peut-être, c'est pour la personne croyante qui est dans cette situation de souffrance. Hein. Je pense qu'elle a, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a cette chance, je peux dire peut-être utiliser ce mot parce que c'est pas tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir s'appuyer sur le Christ lui-même et de se dire. Oui, je ne suis pas seul, même si je suis peu entouré, je ne suis pas seul parce que le Christ est à mes côtés, est avec moi. Bon. Ceci dit, le sens qu'elle peut donner à sa situation peut venir aussi de ce fait qu'elle est une personne priante. C'est-à-dire que cette présence de Dieu et du Christ à ses côtés, elle est très concrète pour une personne croyante, c'est-à-dire qu'elle se concrétise dans le dialogue, dans l'écoute, dans l'écoute de par la prière de Dieu. Et donc cette relation croyante, cette relation de foi, cette relation de prière, à la fois est un soutien moral, personnel, mais aussi une contribution à donner un sens. Comme je disais tout à l'heure, une des raisons, c'est de ne plus avoir de sens, de dire « je ne sers plus à rien ». Il y a quelque chose de très beau dans la foi chrétienne qu'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire qu'il y a une communion qui nous relie tous les uns les autres, les morts et les vivants d'ailleurs. Elle dépasse seulement les vivants, cette communion des saints. C'est l'ensemble des humains qui sont dans cette communion des saints. Et donc, nous pouvons être unis aux autres, par la prière, par ce qu'on appelle cette communion des saints, donc c'est-à-dire le fait d'être relié par la foi, par l'amour et par la prière à tous nos frères et sœurs humains. Ça peut être aussi là un support dans la vie de quelqu'un qui humainement est inutile.
Mais vous, personnellement, pouvez-vous comprendre quelqu'un qui décide de mourir ?
C'est abstrait comme question, parce que c'est qui, voilà. Ouais, bien sûr, je peux être parfaitement amené à le comprendre dans une situation concrète. Comprendre, c'est une chose, approuver, c'en est une autre, vous voyez. Donc comprendre, évidemment, moi je ne peux pas dire dans telle situation je supporterai, et j'en sais rien. Si ça se trouve, peut-être qu'un jour je serai confronté moi-même à cette question. Elle est pour moi abstraite puisque je n'y suis pas confronté. Donc c'est d'ailleurs l'avantage de pouvoir réfléchir en amont, parce que dans le cœur de la souffrance, ou dans le cœur du mal-être, ou dans le cœur... Ben, on n'est pas forcément serein pour réfléchir. Donc, c'est à la fois positif de pouvoir réfléchir en amont et à distance, et à la fois négatif, parce que forcément, on n'est pas dans la situation de celui qui y est. Donc, on ne peut pas se mettre à sa place.
C'est-à-dire, si je comprends bien, vous êtes tout à fait à même d'éprouver de la compassion envers la souffrance et la difficulté, mais pas envers une décision qui consisterait à décider d'une fin de vie.
Oui, la compassion, elle est envers les personnes. Alors, bien entendu, elle est envers les personnes. Mais après, la décision, on peut la juger plus froidement, en disant, on n'est pas maître de... Moi, au nom de ma foi, je dis, on n'est pas maître de sa vie. La vie, on la reçoit. Et donc, on n'en est pas maître. Mais... beaucoup d'éléments peuvent faire en sorte qu'une personne désire mettre fin à sa vie et le fasse. Et ce n'est pas à moi de la juger, cette personne.
Oui. C'est-à-dire que du côté de décider de mourir, il y a une appropriation de quelque chose qui ne nous appartient pas. Hein. Nous devons accepter, dans cette perspective chrétienne, d'être dépossédés de la décision de sa mort.
En tout cas.
Ça, c'est quelque chose que vous dites très clairement. Alors, moi, j'ai deux questions à partir de là. J'imagine qu'il y a un risque à décider de mourir. C'est-à-dire que le suicide est condamné par l'Église. De quelle manière est-ce que ça se traduit, d'une part? Et puis, il y a un autre élément. Je connais j'ai un ami, un ancien, qui a beaucoup d'années et qui perd progressivement l'usage de ses sens. Et il m'a dit très récemment souhaiter que les choses se terminent assez rapidement, donc souhaiter mourir. Je trouvais ça tout à fait émouvant, mais est-ce que du côté de ce souhait de mourir, il y a aussi une condamnation de l'Église? Est-ce qu'on... Vous voyez ce que je veux dire?
Non, le souhait de mourir n'est en soi pas condamnable. Je pense, d'ailleurs, il est normal, même les grands saints... Saint Paul dit « Je souhaiterais mourir, je voudrais mourir pour pouvoir rejoindre le Seigneur, parce que c'est ça ma destinée. Mais non, il faut que je continue à me bagarrer dans ce monde, parce que telle est ma vocation et ce que me demande le Seigneur. » Vous voyez, donc la perspective en fait du croyant, c'est la mort justement, et on la désire, parce que la mort, c'est la plénitude de l'être. C'est pas la même chose, hein. J'ai bien compris que la situation dont vous me parlez, c'est pas ce désir de mort là qui est exprimé, mais je dis ça pour dire le désir de mourir ou le souhait de mourir parce qu'on ne voit plus de sens et c'est trop dur, etc., enfin pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées, il n'est pas du tout condamnable. D'ailleurs, je ne veux pas utiliser le mot condamné ou condamnable. Pour moi, ce n'est pas ça la question. La question n'est pas de condamner ou de ne pas condamner, mais de donner sens aux questions fondamentales de la vie, de chercher du sens à sa vie. Voilà, c'est ça la question. C'est à quoi sommes-nous destinés? À quoi sommes-nous appelés, hein? Et l'Église, même si elle a, dans son histoire, beaucoup condamné, je pense que maintenant, elle en sort progressivement, pour non plus porter des condamnations, mais au contraire, remplir son rôle dans le monde, qui est de contribuer à donner du sens pour chacun, chaque être vivant sur cette terre.
Could not understand.
Sur Radio Grand-Ciel, en compagnie de Didier Gougis qui nous parle de la fin de vie dans une perspective catholique.
En fait, vous distinguez bien et la décision au niveau du passage à l'acte, si j'ose dire.
Oui.
Mais dans l'euthanasie passive, on caractérise finalement l'euthanasie passive par le fait de renoncer à des traitements médicamenteux. C'est-à-dire que c'est une interruption tacite de l'effort d'accompagnement ou d'aide de la personne. Comment vous situez-vous par rapport à ça ?
Alors ça, c'est très subtil. C'est très subtil parce que il y a la question de l'acharnement thérapeutique. Où est la limite entre le refus de l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie passive telle que vous la décrivez ? Bien malin qui peut le dire. Hein. Donc là, dans la loi Claeys-Leonetti qui a été donc récemment votée, il est fait mention de l'autorisation d'une sédation profonde. C'est-à-dire, même si elle doit entraîner la mort à terme, mais dans des conditions qui sont bien précises. Hein. C'est-à-dire que c'est pas... Il faut que vraiment la personne soit en fin de vie, etc. Bon. L'Église hésite sur cette sédation profonde parce que elle peut être une porte ouverte à l'euthanasie passive. Donc tout est dans l'intention. Si l'intention est de soulager la souffrance, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen pour la soulager, et que la conséquence sera que la vie sera abrégée, alors oui. Mais c'est très subtil, hein, parce que c'est dans l'intention. Parce que si l'intention est de donner la mort, alors non. Parce que on ne peut pas se donner le pouvoir de donner la mort à quelqu'un d'autre. Et il y a une autre question qui est derrière ça, c'est aussi la question des soignants. Hein. C'est quelle responsabilité on fait porter sur les soignants. C'est très difficile. Hein. Donc la loi Néodity le dit, il faut que ce soit une équipe, que ce soit pas une personne seule qui décide, il faut qu'elle soit entourée, que la décision soit collective, etc. Ce qui semble très sain, très sage. Hein. Mais n'empêche que, en ouvrant trop grande cette porte de l'euthanasie passive, on risquerait de faire peser un poids considérable sur ces soignants. Puisque qui va décider ?
Qui va décider ? Oui, on en revient à la question de tout le champ de culpabilité qui peut entourer ce genre de choses.
Voilà.
Oui, alors, pour revenir là-dessus, comment, par exemple, l'Église peut prendre en charge des proches qui ont perdu quelqu'un et où cette personne a décidé elle-même de mourir. En fin de vie, souffrant, elle décide de mettre un terme à sa vie. Ce sont des situations qu'on connaît, qui existent. Et comment l'Église, auprès des familles chrétiennes, peut intervenir dans ce cadre-là ? Puisqu'il y a aussi cette perspective, cette épée de Damoclès, qui est que cette personne est-elle condamnée pour justement la vie après la vie.
Alors non, là, on n'en est plus là, Dieu merci.
Mm-hmm. Oui, la position de l'Église a évolué.
Peut-être la position de l'Église a évolué par rapport au suicide, non pas sur l'acte du suicide, contre, elle s'est toujours prononcée contre, et encore aujourd'hui, bien entendu, mais par contre, sur le statut du suicidé. Hein, le statut du suicidé a beaucoup évolué, c'est-à-dire que des obsèques chrétiennes lui étaient refusées.
Tout à fait.
Alors que maintenant, c'est tout à fait le contraire. Hein, au contraire, même je lis là ce qu'il est dit dans j'ai devant moi le catéchisme de l'Église catholique sur le suicide. Alors je relis simplement ce qu'il dit au début de ce petit paragraphe, hein, c'est au 2280 du catéchisme. « Chacun est responsable de sa vie devant Dieu qu'il la lui a donnée. C'est lui qui en reste le souverain maître, Dieu donc. Hein. » Nous sommes tenus de la recevoir avec reconnaissance pardon, et de la préserver pour son honneur et le salut de nos âmes. Bon, donc ça c'est, on pourrait dire, le début. Nous ne disposons pas de cette vie. Donc le suicide contredit ce premier principe, et donc le texte nous dit le suicide est gravement contraire au juste amour de soi, il offense également l'amour du prochain. Vous voyez, la référence à l'amour qui est très importante, hein. Parce qu'il brise injustement les liens de solidarité avec la société familiale, nationale, animale, etc. Bon. Et puis, le suicide est contraire à l'amour du Dieu vivant. Voilà. Donc c'est la référence à l'amour de soi-même, du prochain et de Dieu. Le dernier paragraphe de cette petite partie, c'est le 2283. « On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont données la mort. Dieu peut leur ménager, par les voies que lui seul connaît, l'occasion d'une salutaire repentance. » Alors, c'est des mots qui sont ceux du catéchisme. Hein. Et puis, dernière phrase, l'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Voilà, donc ça exprime bien l'évolution qu'il y a eu. Non seulement on accorde volontiers des obsèques chrétiennes à quelqu'un qui s'est suicidé, mais on invite à prier pour cette personne, c'est le sens de la célébration, avant et après. La célébration des obsèques, et puis, bien entendu, à accompagner les familles. Au combien plus accompagner les familles d'une personne qui s'est suicidée que les personnes qui ont perdu un être cher dans la mort naturelle, on va dire, ou par accident, etc. Donc, l'accompagnement est très important. Alors, on a l'Église... a toujours été en première ligne hein, pour ce qui est de la célébration autour de la mort. Et continue de l'être, soit à travers ses ministres ordonnés, mais aussi beaucoup à travers de personnes laïques hein, qui sont engagées dans l'accompagnement des familles en deuil, dans la célébration des obsèques, puisque beaucoup d'obsèques maintenant sont présidées, célébrées par des personnes baptisées laïques, et puis dans la suite, bien entendu, l'accompagnement des familles après le deuil. Enfin, après le deuil, après les obsèques, le deuil n'est pas terminé.
Et parce que ça, c'est très très important comme changement de position de l'Église oui. hein, par rapport aux obsèques religieuses des gens qui se suicident. C'est pour les familles, en tout cas pour
bien
ceux
entendu,
qui restent,
bien
c'est
entendu.
Vraiment ouais. fondamental. Vous avez une idée de la période, de l'époque à laquelle ça a été fait? Parce que c'est une évolution relativement récente, je crois.
Oui, c'est une évolution relativement récente. Alors, je ne saurais pas dire si c'est lié au Concile Vatican II, mais c'est à peu près donc, le Concile Vatican II qui s'est terminé en 1965 et où beaucoup de positions de l'Église ont été repensées, retravaillées, etc. Et donc, là, je n'ai pas regardé dans la date, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est exactement cette date-là, mais c'est dans cette mouvance-là, en tout cas, clairement, oui.
Oui, d'ailleurs, j'en suis pas du tout certain, mais il me semble que c'est aussi Vatican II qui a traité les questions dont on parlait au début de l'émission, de la souffrance, alors à la fois à la fin de vie, mais aussi du début de vie, de manière tout à fait différente, puisqu'il y avait peut-être avant une forme d'injonction à la souffrance, presque.
Oui, 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 tout à fait.
Qui est complètement écartée aujourd'hui, oui, je crois,
oui.
Y compris pour la naissance.
Oui.
Où les textes actuels, pour ce que j'en sais, disent que, ben oui, bien sûr, si on peut soulager les souffrances d'une femme, par exemple, qui va accoucher, c'est une bonne chose.
Oui, oui. Alors tout ça ici est lié aussi à un rapport à la Bible qui a évolué, hein, c'est-à-dire que le travail de l'étude de la Bible a beaucoup, alors c'est bien avant le Concile Vatican II, mais disons depuis un siècle, on a fait un gros travail historico-critique sur la Bible, et on ne prend plus la Bible au pied de la lettre comme on a pu le faire il y a une centaine d'années peut-être. Une période, hein, mais donc du coup, par exemple, dans la Genèse, il est dit à Ève, tu accoucheras dans la souffrance. Bon, bah évidemment, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein, et le texte de la création, les textes sont des textes mythiques fondateurs, mais non pas à prendre au sens historique, évidemment.
Alors, c'est cette coexistence, cette confrontation de l'amour et de la souffrance. Ne pose-t-elle pas un problème de croyance ?
Je ne comprends pas trop votre question.
Ben, on a d'un côté, pour caricaturer un petit peu le discours, hein, mais on a d'un côté l'amour divin, l'amour total, absolu, et de l'autre côté, on a une réalité qui est la souffrance ressentie, vécue, à gérer, tout simplement. Cette marge d'escalier qu'il y a entre l'idéal et le réel, ne pose-t-il pas un problème de croyance sur le pourquoi, tout simplement ?
D'accord. Alors, c'est un énorme problème. Je dirais même plus que c'est le problème qui est posé à la fois chrétienne, mais à la fois en général, hein, la foi en Dieu. C'est-à-dire, si on dit Dieu est un Dieu d'amour qui a créé ce monde, comment se fait-il qu'il y ait du mal dans le monde? Comment se fait-il qu'il y ait cette souffrance dans le monde? Comment se fait-il que l'homme soit souffrant? Comment se fait-il que le monde aille si mal? Comment se fait-il que tout va de travers? Enfin bref, je ne vais pas faire un dessin, hein. Malheureusement, on en a tous les jours la preuve que ce monde n'est pas le monde idéal. Alors ça, c'est effectivement la grande question, le grand obstacle à la fois pour beaucoup de monde, je pense, et qui ne se résout pas. Elle n'a pas de réponse. La seule réponse que nous avons, c'est celle du Christ. C'est-à-dire que Dieu est venu lui-même partager cette souffrance, Dieu lui-même. Il l'a partagée jusqu'à la mort. Il a partagé notre condition humaine et il l'a transformée. Il l'a transformée par un acte que nous appelons la résurrection du Christ en un avenir possible de partager sa vie même. Mais après, ça ne résout pas le problème concret de la vie quotidienne, hein, j'entends bien. Simplement, ça donne une perspective. Et ça peut... Ça ne réduit pas cette contradiction du Dieu d'amour et du mal dans le monde. Et là, on a à vivre avec. Hein. On a à vivre avec, en tant que croyant, on a à vivre avec cette contradiction. Et je pense que c'est comme une énorme tension qui a quelque chose à voir avec la croix du Christ. Hein. La croix du Christ sur laquelle le Christ est écarté entre la dimension verticale et la dimension horizontale. Et lui-même l'a vécu dans sa chair, cette tension. Et d'ailleurs, il a dit le psaume « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume qu'il dit sur la croix. Ben voilà, on reste avec cette question, hein, et il ne faut pas vouloir la résoudre trop vite par des bonnes paroles.
Sur la question, sur ces questions, on parlait tout à l'instant de Vatican II et donc d'un retour historico-critique sur la perception des textes, etc. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que l'Église est unanime ? Peut-être pas. Je pense qu'il y a des tensions, c'est le terme de tension en fait qui m'y fait penser, des tensions au sein même de la communauté chrétienne, avec des approches qui ne sont pas forcément les mêmes.
Bien sûr, bien sûr. On le voit bien dans des cas concrets d'accompagnement de personnes, etc., mais aussi dans des questions de société, l'Église catholique et les chrétiens plus largement n'ont pas la même analyse de toutes les situations. Les évêques eux-mêmes, on l'a bien vu dans le dernier synode sur la famille qui a eu lieu, avec des évêques représentants du monde entier, il y a des différences de perception, de culture, d'histoire, qui font qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, et c'est très bien, heureusement d'ailleurs. Parce que du coup, il y a du débat et ça peut, c'est comme ça que peu à peu d'ailleurs le dogme chrétien s'est construit. Hein, c'est par les conciles successifs où, et ça a commencé avec Saint Pierre et Saint Paul qui n'étaient pas d'accord. Hein, donc l'histoire de l'Église est traversée de désaccords qui créent du débat et qui permettent d'approcher la vérité. Le problème, c'est quand on pense connaître la vérité ou détenir la vérité, c'est là que ça devient vraiment problématique. On est en recherche de vérité et on s'approche de la vérité grâce aux autres, grâce au dialogue, grâce à l'échange avec les autres. La vérité ne nous appartient pas.
Alors, je reviens sur un terme qui n'a pas été prononcé, mais autour duquel on a tourné pendant cette émission. C'est le terme de s'appartenir. On ne s'appartient pas finalement jusqu'au bout. Oui. Alors, moi je voudrais vous poser une question, c'est... À quoi tient l'éthique de quelqu'un qui n'a pas de conviction ou de pratique religieuse ?
Alors évidemment, vous demandez ça à un croyant, donc c'est un petit peu difficile de répondre. Je pourrais vous renvoyer la question, n'importe qui peut essayer de répondre. Mais enfin, c'est souvent la question que je me pose d'ailleurs. Hein. On s'appuie bien entendu sur des éléments de notre foi, mais aussi sur la raison. La foi ne va pas sans la raison. Et donc, j'ai développé un certain nombre d'arguments, d'ailleurs, hein, qu'on peut partager avec des non-croyants, hein, sur la dignité humaine, par exemple. Hein. Et je pense qu'il y a un certain nombre de valeurs humaines que l'on partage, sans doute d'ailleurs, dans nos sociétés qui viennent en grande partie de la foi chrétienne, mais qui ont été partagées par les sociétés françaises notamment, mais occidentales en général. La valeur de la fraternité, tout homme est mon frère, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour pouvoir l'affirmer. La dignité, alors là, elle est ambiguë, la dignité. Hein, on voit bien, puisque au nom de cette même dignité, on a des positions totalement opposées. Donc il faut, en tout cas, ça mérite qu'on en discute avec différentes approches de cette dignité. La liberté, bien sûr, même si là encore, on n'a pas la même perception forcément de la liberté. En tout cas, le respect des autres, le respect de l'autre au nom de la fraternité. Qui suis-je pour porter la main sur l'autre ? Le respect de la vie. Hein. Nous, on fonde notre foi en respect de la vie sur la Bible, hein, tu ne tueras pas, hein, qui est un des commandements. Mais ceci étant, on le partage avec l'humanité tout entière. C'est le respect de la vie de l'autre, c'est une valeur que l'on partage. La démaîtrise. Moi, j'ai envie de parler de démaîtrise parce que c'est très à la mode. On parle de démaîtrise. Vous disiez, nous, comme chrétiens, on se dit on n'est pas maître de notre vie. Et puis, la démaîtrise, c'est-à-dire la capacité à lâcher prise. Le lâcher prise aussi, là, c'est des mots qui sont très à la mode. Hein. Mais ça dit quelque chose de ça. C'est-à-dire... je ne suis pas maître de tout, je ne suis pas le maître du monde, je ne suis pas le maître des autres, je ne suis pas le maître de moi-même. Il y a en moi-même quelque chose qui me dépasse. Je pense que chacun peut percevoir ça.
Vous évoquez la question aussi de l'égalité devant la mort. Ça me fait penser à cette fresque tout à fait étonnante à Mélèle Grenet,
oui.
La danse macabre, où justement la présentation de cette fresque du 15e siècle, hein, je crois, si je ne me trompe pas, pose cette égalité de l'enfant jusqu'au pape, ou du pape jusqu'à l'enfant.
Oui, enfin. On est tous dans la même danse vers la mort.
Il y a une perception qui reste à trouver entre ces termes, qui reste effectivement pétri d'humanité, la fraternité, le respect, la dignité, la liberté. Qu'en est-il du juste ? Est-ce que c'est juste de souffrir ?
Ben, non. Bien sûr, c'est ni juste ni injuste, je dirais. C'est propre à la condition humaine. Pourquoi certains souffrent, pourquoi d'autres ne souffrent pas, ou souffrent un moment et pas un autre ? Bon. Je ne vois pas tellement de questions de justice là-dedans, même si le souffrant peut se poser la question.
Oui, c'est dans ce sens-là que je l'aborde.
C'est injuste, oui, bah, bien sûr, c'est injuste, je n'ai pas mérité ça. Certains disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Bah, évidemment, c'est pas le bon Dieu qui nous envoie la souffrance. Mais elle arrive parce qu'elle est liée à la condition humaine. Et que la douleur, d'ailleurs, a une signification probablement médicale. Hein. La douleur nous révèle un mal.
Alors, plutôt que justice, est-ce qu'on peut parler de mérite ? Parce qu'effectivement, on pourrait penser, en tout cas, lorsque les gens souffrent souvent, ils peuvent le formuler comme ça, cette vie est aussi, comporte en tout cas un prix à payer pour la vie future.
C'est-à-dire que plus on souffre, plus on mérite d'être.
Ou plus on expire.
Je refuse absolument cette vision. Nous sommes appelés à partager la plénitude de la vie de Dieu, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et ça ne se mérite pas. C'est un don. C'est un don qui se reçoit. Voilà. Et aucun effort qu'on puisse faire, rien de souffrance, rien de mérite, rien. Saint Paul nous dit très bien, j'aurais beau parler toutes les langues de la terre, j'aurais beau faire ceci, j'aurais beau faire cela, toutes les merveilles, faire les plus grands miracles du monde ou souffrir les plus grandes souffrances du monde. Je ne suis qu'une cymbale qui résonne si je n'ai pas l'amour, s'il me manque l'amour. Voilà. C'est l'amour qui va donner le sens. Et nous sommes là, nous sommes créés pour aimer, par amour. Dieu nous a créés pour aimer. Et rien d'autre que l'amour ne peut sauver.
Voilà, moi je pense qu'on va, on va terminer l'émission sur cette parole. J'espère qu'elle aura répondu en partie au moins à un certain nombre d'interrogations, voire de besoins de certains auditeurs. Que nous encourageons à prendre contact avec nous si l'envie s'en fait sentir. Et puis, je crois qu'il faut effectivement terminer en disant que nos certitudes, quelles qu'elles soient, n'attendent qu'à être finalement apprivoisées pour rejoindre ces valeurs que vous avez citées, dont la fraternité, qui n'est pas simplement religieuse, mais qui est au sens plus large du terme laïque et digne. Et c'est sur cette parole, en fait, qu'on reste en vous donnant rendez-vous sur une prochaine émission. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Merci. Au revoir. A grown woman jumping up and down like I was.
talk to you intensely, feel you are listening. My only wish, I wish that I could hear your voice, angel mom.
Yeah.